Laissez-moi vous raconter une première fois. Un jour, profitant de ce que je n'allais pas à l'école à cause d'un léger rhume, je pris des volumes de reproductions d'œuvres d'art que mon père avait rapportés comme souvenir de ses voyages à l'étranger et je les emportai dans ma chambre où je les feuilletais avec une grande attention. J'étais particulièrement enchantée par les héliogravures des sculptures grecques dans les guides des divers musées italiens. En ce qui concerne les nus, parmi les nombreuses reproductions de chefs-d'œuvre, ce furent ces gravures en noir et blanc qui me séduisirent le plus. Ce qui était probablement dû au simple fait que, même sur les reproductions, la sculpture semblait plus vivante. C'était la première fois que je voyais ces livres. Mon avare père ne pouvait supporter que les images fussent touchées et salies par des mains enfantines, et craignant aussi, bien à tort, que je puisse être attirée par les nudités féminines des œuvres célèbres, tenait ces ouvrages cachés au fin fond d'une armoire. Et pour ma part, jusqu'à ce jour-là, je n'avais jamais imaginé qu'ils pussent être aussi intéressants que les illustrations des romans d'aventure publiés en magazine. Je commençais par tourner une page vers la fin du volume. Soudain apparut, à l'angle de la page suivante, une image dont je ne pus m'empêcher de croire qu'elle était là pour moi, à m'attendre. C'était une reproduction du Saint-Sébastien de Guido Reni, qui fait partie des collections du Palazzo Rosso à Gênes. Le tronc noir et légèrement oblique de l'arbre servant de poteau d'exécution, se détachait sur un fond de forêt sombre et de ciel crépusculaire, ténébreux et lointain, dans le style de Titien. Un jeune homme d'une beauté remarquable était attaché nu au tronc d'arbre. Ses mains croisées étaient levées très haut et les courroies qui lui liaient les poignets étaient fixées à l'arbre. Aucun autre lien n'était visible et le seul vêtement qui couvrit la nudité du jeune homme était une grossière étoffe blanche nouée lâchement autour des reins. Je crus deviner que le tableau représentait le martyr d'un chrétien. Et comme il était l'œuvre d'un peintre épris de beauté, appartenant à l'école éclectique issue de la Renaissance, même cette image de la mort d'un saint chrétien dégageait une forte odeur de paganisme. Le corps du jeune homme, on aurait pu le comparer à celui d'Antinous, le bien-aimé d'Adrien, dont la beauté a été si souvent immortalisée par la sculpture, ne montre aucune trace des épreuves du missionnaire ou de la décrépitude qu'on trouve dans les représentations d'autres saints. Au contraire, il n'y a là rien d'autre que le printemps de la jeunesse. Rien que lumière, beauté et plaisir. bras musclés, les bras d'un garde prétorien accoutumé à bander l'arc et à manier l'épée, sont levés selon un angle gracieux et ses poignets liés sont croisés juste au-dessus de sa tête. Son visage est légèrement tourné vers le ciel et ses yeux grands ouverts contemplent avec une profonde sérénité la gloire céleste. Ce n'est pas la souffrance qui erre sur sa poitrine tendue, son ventre rigide, ses hanches légèrement torses, mais une lueur d'un mélancolique plaisir, pareil à la musique. N'étaient les flèches que très profondément enfoncées dans son aisselle gauche et son côté droit, il ressemblerait plutôt à un athlète romain se reposant, appuyé contre un arbre sombre, dans un jardin. Les flèches ont mordu dans la jeune chair ferme et parfumée et vont consumer son corps au plus profond, par les flammes de la souffrance et de l'extase suprême. Mais il n'y a ni sang répandu, ni même cette multitude de flèches qu'on voit sur d'autres représentations du martyr de Saint-Sébastien. Deux flèches seulement projettent leurs ombres tranquilles et gracieuses sur la douceur de sa peau, comme l'ombre d'un arbuste tombant sur un escalier de marbre. Mais c'est plus tard que toutes ces interprétations et ces observations me vinrent à l'esprit. Ce jour-là, à l'instant même où je jetais les yeux sur cette image, tout mon être se mit à trembler d'une joie païenne. Mon sang bouillonnait, mes reins se gonflaient comme sous l'effet de la colère. La partie monstrueuse de ma personne qui était prête à éclater attendait que j'en fisse usage. Avec une ardeur jusqu'alors inconnue, me reprochant une ignorance haletante d'indignation. Mes mains, tout à fait inconsciemment, commencèrent un geste qu'on ne leur avait jamais enseigné. Je sentis un je ne sais quoi secret et radieux bondir rapidement à l'attaque, venu d'au-dedans de moi. Soudain, la chose jaillit, apportant un enivrement aveuglant. Un moment s'écoula, puis, en proie à des sentiments de profonde tristesse, je portais mes regards autour du pupitre devant lequel j'étais assis. Un érable, en face de la fenêtre, jetait alentour un reflet brillant. Sur la bouteille d'encre, sur mes livres de classe et mes cahiers, sur le dictionnaire et sur l'image de Saint-Sébastien. Il y avait un peu partout des taches d'un blanc de nuage. Sur le titre imprimé en lettres d'or d'un manuel, sur le flanc de la bouteille d'encre, sur un angle du dictionnaire. Certains objets laissaient échapper des gouttes molles, comme du plomb, d'autres luisaient d'un reflet terne, comme les yeux d'un poisson mort. Par bonheur, un mouvement réflexe de ma main pour protéger l'image avait empêché que le livre ne fût souillé. Ce fut ma première éjaculation. Ce fut aussi le début, maladroit et nullement prémédité, de mes mauvaises habitudes.
Pie. Bonsoir Pauline Cuny-Jardin.
Et bonsoir Eric, et bonsoir Damien.
Voilà, bonsoir Damien Hérault.
Bonsoir Eric, bonsoir Pauline.
Je suis ravi de vous accueillir. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre Pauline?
Alors, on vient d'entendre, le premier morceau était Alatodine, qui était, donc Alatodine c'est un chant traditionnel de l'Umbria, qui est collecté par Giovanna Marini. Et ensuite, on a entendu Quadrus Cedre, suivi de La Promessa, les deux étant interprétés par les divers chœurs de Lisa Bourg. Et puis ensuite, là, avec A Tu Piedi, on a entendu un chant de Vico qui est dans les Pouilles, un chant chanté pendant la Semaine Sainte.
D'accord, mais tu peux nous dire un peu plus, qu'est-ce que sont ces chants? Il me semble que ce sont des chants qui sont une réinterprétation de chants traditionnels masculins, c'est ça?
Alors non, pas tous.
D'accord.
En fait, dans le cas du premier morceau, Alatodine, il ne me semble pas que ce soit un chant masculin à la base. Et pour Quadrus Cedre et La Promessa, non plus, mais c'est vrai que je t'avais promis des chants masculins chantés par les femmes, et dans ma sélection, j'ai finalement choisi à la musique et pas au conceptuel.
Entendu.
Donc voilà, mais il s'agit pour les quatre chants choisis et entendus d'interprétation féminine.
D'interprétation féminine. Donc en gros, tu nous as lu un texte de Mishima, où il me semble bien que dans les Confessions d'un masque de Mishima, il raconte sa première masturbation sur un Saint-Sébastien de Véronèse, c'est ça?
Dans le bureau de son père.
Dans le bureau de son père. Et donc, tu as intercepté, tu as fait cette espèce de collage ou de rapprochement entre des chorales féminines et ce moment apparemment fondateur quasiment chez Mishima.
Ben, il y a deux moments fondateurs. Il y a des femmes qui chantent à la Vierge Marie tout en... Alors, elles prennent la voix de la Vierge Marie la plupart du temps en parlant de leur fils malade et ensanglanté, ce qui est en général les paroles des chants des Semaines Saintes, ou les chants dits de passion. Et puis, j'ai collé ça avec la première éjaculation de Mishima, donc un autre événement fondateur. Fondateur, oui, cherchant toujours un peu dans les origines ce qu'on peut trouver de dégueulasse.
L'origine, non, je sais pas, mais...
De sale.
Qu'est-ce que t'en penses, Damien?
Je sais pas, il y a une anecdote qui me revient quand j'entends parler des Saint-Sébastien tout le temps, et c'est, je me dis, c'est un lien avec la Grèce, mais en fait, c'est pas la Grèce, c'est la Rome.
C'est Rome, oui.
C'est le Mantegna, le Saint-Sébastien de Mantegna. En fait, il y a des pieds d'une statue cassée à ses pieds, à lui, qui sont en fait des pieds en marbre, et qui représentent en fait la chute, la statue romaine qui est cassée et qui est remplacée par l'univers chrétien, qui est remplacé par le martyr. Donc on a un premier fétichisme des pieds là, avec ces deux panards dans les sandales en bas du tableau, qui est une parabole de en fait tout un univers qui a été détruit, quoi. Ouais. Voilà, avec l'armée qui arrive derrière. Mais bon, c'est une petite histoire comme ça, sans intérêt.
Pas sans intérêt, parce que le dernier morceau, c'était À tes pieds. Ah. Hurler dans les rues de Vico, à tes pieds. Les pieds de la Vierge étant là où on récupère le sang du Christ, puisque c'est là qu'on le récupère techniquement. Mais c'est aussi ce qui, quand une statue est érigée, on peut attraper.
Oui, et qu'on peut embrasser. C'est aussi souvent pour ça qu'on a le drapé et le petit bout d'orteil qui dépasse dans la statuaire. Ouais. Non, mais en fait, j'ai pas trop de questions.
Non, mais de toute façon, cette histoire est une histoire de discussion et de conversation. Donc, c'était juste de réagir à chaud sur. Enfin, Pauline, peut-être tu peux nous raconter, genre tu. Si j'ai bien compris, tu fais partie de ces chorales.
Alors oui, je fais partie, mais j'ose même pas le dire parce que c'est nouveau et que c'est délicat, mais oui, je fais partie maintenant du chœur la Donisso, dirigée par Annunziata Matteucci.
À Berlin.
À Berlin, et j'en suis pas peu fière, parce que ça a été difficile.
Ça a été difficile de rentrer dans le cœur ou de si...
Oui. Bah oui, pour des raisons musicales et des raisons même de comment on entre dans un cœur, on n'entre pas dans un cœur comme on rentre au moulin.
On n'entre pas dans un cœur n'importe comment, mais
et
ça
voilà.
C'est sûr.
Exactement. Ouais. Et voilà, Annunziata comme Lisa, Annunziata Matteucci comme Lisa Bourg sont deux élèves de, pour ceux qui sont un peu familiers d'ethnomusicologie ou d'anthropologie de la Méditerranée, qui sont donc des élèves de Giovanna Marini, qui est cette extraordinaire musicologue, ethnomusicologue, qui a toujours une école à Rome, qui s'appelle La Testa, et qui avait à la Sorbonne dans les années 70 et puis 80, jusqu'aux années 90, un cours où elle, pendant trois jours, elle faisait chanter et elle emmenait tous ses élèves dans les Semaines Saintes, mais aussi dans les endroits où encore aujourd'hui on chante. Et quand je t'ai parlé des chants masculins, c'est par exemple les chants sardes polyphoniques ou les chants corses sont des chants masculins. Et nous, on interprète ces chants-là qui sont en général interprétés par... Enfin, qui ne sont pas en général, ils sont toujours interprétés par des hommes. Mais en fait, après, c'est une histoire musicale, c'est-à-dire comment on adapte des voix de femmes à quelque chose qui est fait pour se faire dans... Enfin, c'est pas que c'est fait pour se faire dans la montagne, mais qui est un chant des bergers, qui est donc lié aussi à leur activité de berger, qui est de crier, qui est de parler aux bêtes, aux chiens, et surtout de le faire dans la montagne où l'acoustique est évidemment différente que dans une église. Après, on connaît un peu le chant des Mondines. Enfin, voilà, on connaît tous Bella Ciao, qui est le chant de Mondine. Donc, les Mondines, c'est les travailleuses des riserées. Enfin, les travailleuses du Nord ou de toute l'Italie qui vont travailler dans les riserées, donc surtout dans les régions de Calabre et des Pouilles, et même de la Vénétie. Et voilà, il y a plein de chants qui sont des chants de chants. Enfin, des chants de chants. Ou qui sont aussi gueulés, qui sont aussi des chants faits pour se chanter dehors, donc ils sont où les accords et la puissance des voix et un entraînement, une technique qui est complètement liée à l'activité agricole.
À l'extériorité.
Bien sûr.
Enfin,
c'est
un peu l'exercice qu'on a ce soir de parler à la radio en public à l'extérieur, ce qui n'est
un exercice un peu
particulier, mais il faut pouvoir exercer sa voix pour pouvoir une portée. Oui, quasiment public en fait.
Mais non, c'est intéressant.
L'espace, quoi. Genre, comment tu chantes.
C'est plutôt l'espace, parce que si tu dois dire passe-moi la faux à celle qui est à.
Qui est à 200 mètres.
50 mètres de toi, tu peux pas le faire.
Chuchoter.
Comme passe-moi le sel. Voilà, donc.
Donc quelque chose de l'ordre de la puissance en fait.
Ouais.
Ce sont des chants qui ont une certaine puissance.
Oui, de force de la voix, mais qui est liée à tout le corps qui travaille. Travailler dans les riseries. Enfin, vous avez peut-être vu Riso Amaro, qui a complètement sexualisé ses mondines. Avec Sylvana Mangano, on ne peut pas avoir oublié les cuisses de Sylvana Mangano quand on a vu ce film. Et c'est un film de cuisses. Pas de pieds, mais de cuisses. Mais bon, je pense pas que la réalité était faite de cuisses et de diamants comme dans le film. Je pense que c'est encore réellement c'est très dur, quoi. C'est épuisant.
Il y a quelque chose de lui relié à la nature aussi. C'est un petit peu à essayer de choper la fréquence qui va faire trembler les feuilles, les herbes, tous ces sons aussi qu'on connaît pas, qui sont reconnus par des chiens, qui sont reconnus par des animaux particuliers et qu'on essaye des fréquences, qu'on essaye de sortir, quoi, et qui sont parfois même inaudibles, quoi.
Mais on parle de polyphonie, on peut se demander si l'association de plusieurs voix pourrait pas rejoindre des ondes, enfin, la composition sonore que composerait genre plusieurs voix arriverait à rejoindre justement les ondes qu'un seul être humain ne peut pas émettre ou entendre, parce qu'on est quand même limité sur cette histoire d'ondes. mais le collectif arrive peut-être à dépasser les impossibilités individuelles. Enfin, je sais pas, je pose une question.
Et oui, puis il y a des effets de fréquence, de musique spectrale, etc., de sons qui font vibrer les vitres, qui sont aussi employés dans des chants d'Europe de l'Est, ou je pense en Italie, quoi.
Oui, en Italie. Comme en Géorgie. Ouais.
Et bon, pour conclure, peut-être, parce que nous faisons des petites sessions, je vais revenir sur Mishima, sur cette révélation et sur l'idée de la maternité. Parce qu'en fait, au fond, chant de femme, cœur de femme, quelque chose qui est de l'ordre de la. Oui, au-delà de l'origine, de. Enfin, je sais pas, je me pose la question de ton intérêt à cet endroit-là. C'est quelque chose qui est très proche du chemin de l'origine. On en a un peu parlé brièvement, mais très proche de où ça commence, en fait.
Il y a quelque chose de la grotte aussi, peut-être, avec le bureau ou la bibliothèque, l'espèce d'endroit où on se retrouve tout seul. Je sais pas, j'interprète comme ça, vite fait.
Il y a deux questions en même temps, là, mais...
Oui, alors moi, j'ai pensé au sperme.
Ouais.
Mais parce que dans la description de cette éjaculation, enfin, elle est jouissive pour Mishima qui la raconte, qui s'en délivre peut-être et qui en joue, mais qui est aussi jouissive pour vous, qui l'est pour moi. Et bon, il y a un vrai plaisir à lire ce texte, peu importe l'objet du désir du départ.
Bah, du coup, c'était un plaisir de t'entendre le lire. Je te remercie, Pauline. Je te remercie, Damien.
Peut-être
tu veux dire un autre...
Ouais. Non, je voudrais mettre une dernière chanson qui me fait pleurer. Mais elle me fait pleurer parce que la musique... mais aussi, c'est un chant en albrecht. Donc, l'albrecht, c'est la... la langue, le dialecte fabriqué, fait, utilisé par les immigrés albanais en Calabre. C'est peut-être pas très précis ce que je dis, donc voilà, mais en tout cas, il s'agit d'un chant qui parle très clairement de qu'est-ce que c'est que d'être immigré. Et donc, je vous dis un peu les paroles, vous allez l'écouter. Le narrateur, le chanteur regarde une hirondelle et observe comment elle vole un petit peu haut, un petit peu bas. Et puis il se demande si l'hirondelle n'aurait pas traversé son village. Et il lui dit, si j'avais su que tu avais traversé mon village, je t'aurais dit de dire bonjour à plein de gens et j'aurais pu te raconter plein d'histoires. Mais... de toute façon, tu ne m'écoutes pas, tu t'en fiches, tu voles un petit peu haut, un petit peu bas. Voilà. Ça s'appelle Aremu.
Ti pleona capimera. Yeah.